Bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous arrivez à voir? Exact. Un adaptateur. Des adaptateurs, il en existe des centaines, peut-être même des milliers. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un adaptateur Suisse-France ou France-Suisse, je ne sais pas ce qu'il faut dire, dans quel ordre on doit le dire. En fait, on a des systèmes électriques domestiques avec des prises différentes en Suisse et en France, même si la tension est la même, même si la fréquence du réseau est la même, la forme des prises est différente. Et du coup, on a cet adaptateur-là qui permet de rentrer avec une prise française et de ressortir avec une prise suisse pour se brancher sur le réseau suisse. Si vous avez une machine à café que vous avez achetée à Leclerc et que vous essayez de la brancher chez vous et que vous habitez en Suisse, vous verrez, ça ne marche pas. Vous aurez besoin de cet adaptateur. Ce sera impossible, à moins que vous soyez vraiment bon bricoleur, ce sera impossible de faire fonctionner l'appareil sans ce petit truc-là. Comme j'ai dit, des adaptateurs, il en existe des milliers. Hein. Ça, c'en est un particulier. Il en existe dans tous les domaines où on utilise de l'électricité. Il en existe pour la vidéo. En vidéo, il y a plein de différents types de prises. On a des adaptateurs d'une prise vers une autre dans tous les sens. Il en existe pour les systèmes de sono. Il en existe pour la transmission de l'information, etc., etc., etc. Qu'est-ce que c'est, fondamentalement, un adaptateur? Un adaptateur, c'est un dispositif qui sert à passer d'un système à un autre système, d'un monde, on pourrait dire, à un autre monde. Deux mondes qui, a priori, ne peuvent pas fonctionner ensemble et que l'adaptateur va pouvoir faire fonctionner ensemble. Le monde de l'électricité domestique français et le suisse ne peuvent pas fonctionner ensemble. On a besoin d'un adaptateur. Pourquoi cette illustration? Vous allez voir, je vais y revenir tout au long de la prédication. Mais parce qu'en fait, on va voir ce matin que Jésus-Christ est notre adaptateur. Alors évidemment, en langage théologique, on n'utilise pas le mot adaptateur. On dirait plutôt que Jésus-Christ est notre prêtre, notre grand prêtre parfait. C'est ce qu'on va voir ce matin. Le titre de cette prédication, c'est le suivant, hein, « Jésus plus qu'un prêtre ». On va voir ça dans un instant. Si vous êtes assis sur votre chaise ce matin, c'est probablement soit que vous êtes chrétien, soit que, au minimum, vous êtes intéressé par le christianisme, vous vous posez peut-être des questions par rapport au christianisme. Qu'est-ce que c'est, fondamentalement, le christianisme? André a un peu répondu à cette question tout à l'heure, hein, mais pour certains, ils vont imaginer que le christianisme, c'est un style de vie. On peut identifier les chrétiens à leur style de vie. D'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est vraiment insuffisant de voir le christianisme comme un style de vie. Pour certains, le christianisme, ce serait une espèce d'immense to-do list avec beaucoup de choses qu'on devrait accomplir en tant que chrétien. C'est vrai, il y a des choses qu'on fait en tant que chrétien, qu'on vit en tant que chrétien, mais vraiment, de voir le christianisme, la vie chrétienne, comme une to-do list de choses à faire, c'est très insuffisant. Certains vont définir le christianisme comme, en fait, c'était étant le fait de croire à un certain nombre de vérités bibliques. Si vous croyez ceci, ceci et cela, alors vous êtes un chrétien. C'est vrai. On peut identifier les chrétiens par rapport à ce qu'ils croient, mais c'est vraiment très insuffisant. En fait, le christianisme, c'est avant tout une relation. Le centre du christianisme, c'est une personne. C'est pas une loi, c'est pas un style de vie, c'est pas des vérités théologiques. C'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Et le christianisme, c'est le fait d'être en relation avec Jésus-Christ. On vit un certain type de relation avec Jésus, qu'on appelle souvent une relation maître et disciple. Jésus est notre maître et nous sommes ses disciples. En tant que disciple, on cherche à connaître notre maître. On cherche à le connaître toujours mieux. Et comment on fait pour le connaître? On étudie le livre qui nous a laissé, la Bible. Et on a ici à peu près une quarantaine d'auteurs différents qui nous parlent de Jésus-Christ de différentes manières. Un de ses auteurs, un auteur anonyme, a écrit cette épître aux Hébreux, dans lequel il montre avec beaucoup de nuances et avec beaucoup de détails qui est Jésus-Christ. On a vu que Jésus est plus qu'un ange et qu'à cause de ça, on doit l'écouter. On a vu que Jésus est plus que Moïse et qu'à cause de ça, on peut vivre le repos grâce à lui. Et ce matin, on va voir que Jésus est plus qu'un prêtre et qu'à cause de ça, on peut avoir accès à Dieu. Qu'est-ce que c'est un prêtre ? Avant de lire le texte, j'aimerais juste répondre à cette question. Un prêtre, ça peut paraître... Enfin, on n'a peut-être pas trop l'habitude de parler de prêtre. Qu'est-ce que c'est un prêtre ? Dans la plupart des religions, en tout cas à ma connaissance, pour les religions que je connais un tout petit peu, le prêtre, c'est un être humain qui sert d'intermédiaire entre Dieu ou entre une divinité et le reste des hommes. La Bible parle beaucoup de prêtres, en particulier l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait un système de prêtres. Il y avait en fait une famille particulière dans le peuple d'Israël qui était une famille de prêtres qui servait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes d'une certaine façon. Et parmi ces prêtres, il y en avait un spécifique. Je vous en parle parce que vous verrez qu'il vient dans ce prêtre-là, il en est question dans le texte. Il y en avait un qui s'appelait le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur, il avait en tout cas une grande spécificité. Il pouvait, un jour par année, pendant quelques instants, entrer dans un lieu très spécial. Dans le temple à Jérusalem, il y avait au fond du temple comme une petite pièce fermée à laquelle on n'avait pas accès. Et le souverain sacrificateur, le grand prêtre, pouvait rentrer quelques instants, une fois par année, dans ce lieu qui était symboliquement le lieu de la présence même de Dieu. Il allait pour offrir un sacrifice pour le peuple. Une seule fois par année, un seul homme parmi tout le peuple pouvait entrer dans ce lieu-là. Et on va voir maintenant dans le texte que Jésus est ce grand prêtre. Est-ce qu'on peut afficher le texte ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit énormément de choses pour nous démontrer que Jésus est plus qu'un prêtre. Je vais simplement me contenter de citer deux extraits qui nous montrent vraiment le cœur de sa pensée. Voilà ce que ça signifie. Voilà pourquoi Jésus est un souverain sacrificateur parfait. Et voilà ce que ça signifie pour nous. Je vous lis ce texte, si vous avez vos Bibles, donc c'est dans Hébreux 4 à partir du verset 14, et puis quelques extraits dans la suite du texte. Mais lisez plutôt le texte que j'ai affiché à l'écran, ce sera plus facile. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Quelques versets plus tard, l'auteur dit « C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait ». Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des péchés et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse. Tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Jusqu'ici, la lecture de ces quelques versets de la parole de Dieu. On va voir trois choses. Premièrement, on va voir que Jésus est plus qu'un prêtre parce qu'il est Dieu. Dans le début du texte, je vous relis simplement un verset. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Jésus est Dieu. Le Nouveau Testament est absolument clair à ce sujet. Hier, on était à la place du Mollard avec quelques-uns pour... la place du Mollard, c'est une grande place de Genève, avec quelques-uns pour partager l'évangile avec les passants. Et une personne est venue avec vraiment cette question, une personne assez virulente, enfin, je sais pas, les échanges ont été assez vifs, en tout cas, cette question que Jésus est-il vraiment Dieu ? Et c'est vrai, il n'y a aucun moment dans le Nouveau Testament où Jésus dit cette phrase « Je suis Dieu ». Mais Jésus, encore et encore et encore, tout au long du Nouveau Testament, démontre qu'il est Dieu. Il guérit le paralysé pour démontrer qu'il est Dieu. C'est vraiment son intention, il le dit. Il démontre qu'il est Dieu, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a traversé le ciel, lui qui est Dieu, il a traversé le ciel, il nous a rejoints. Lui qui est le Fils de Dieu, il s'est approché de nous. Si on reprend l'image de l'adaptateur, Jésus, d'un côté, est pleinement Dieu, il est pleinement adapté à la divinité, puisqu'il est lui-même Dieu. Il fait partie du monde de Dieu. Deuxième point, Jésus est plus qu'un prêtre, car il s'est fait homme. Je vous lis encore quelques versets. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. De l'autre côté, si Jésus est parfaitement Dieu d'un côté de l'adaptateur, de l'autre côté, on voit ici que Jésus s'est fait homme. Il peut être ce souverain sacrificateur parfait. Il est légitime parce qu'il est à la fois d'un côté pleinement Dieu et à la fois de l'autre côté pleinement homme. Il a été tenté en tout point comme nous. Seule différence, sans commettre de péché. Et on va voir dans le troisième point ce que ça signifie, que c'était sans commettre de péché. Jésus, qui existait de toute éternité, a accepté de revêtir une deuxième nature, la nature humaine. Donc il n'est pas un mi-dieu, mi-homme, comme dans certaines mythologies. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et il fallait quelqu'un qui soit pleinement Dieu et pleinement homme pour être cet adaptateur qui permet un pont entre les hommes et Dieu, qui permet aux hommes d'accéder à Dieu. Troisième point qu'on voit dans le texte, dans la deuxième partie, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin que, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Jésus est saint. Il a vécu l'humanité, mais il n'a jamais péché. C'est ce qu'on vient de voir. Et on voit ici qu'il est saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Si on revient à notre image de l'adaptateur, il ne suffit pas, vous vous rendez bien compte qu'à l'intérieur de ça, ce n'est pas juste une boîte vide. Il ne suffit pas d'avoir une prise adaptée d'un côté et une prise adaptée de l'autre côté pour que l'adaptateur fonctionne. Il faut encore qu'à l'intérieur, il y ait un câblage, il y ait un système qui permette que les choses puissent fonctionner. Alors là, en l'occurrence, c'est un adaptateur assez simple. Il y a probablement juste trois câbles électriques qui passent d'une borne à l'autre borne et qui permettent de transférer la puissance électrique. Mais dans d'autres cas, ça peut être un système assez complexe qui transforme l'information, par exemple. Quoi qu'il en soit, il faut que l'objet adaptateur soit fonctionnel. Sinon, il ne peut pas permettre la transmission de la puissance ou la transmission de l'information. De la même façon, ça ne suffisait pas que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme. Il fallait aussi qu'il soit légitime, valide, fonctionnel pour ouvrir ce chemin vers Dieu. Et il l'est. C'est le troisième point que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre ici. Il l'est pourquoi ? Parce qu'il est saint, sans péché. Si Jésus avait été un être humain à part entière, il n'aurait pas pu être cet adaptateur, il n'aurait pas pu être ce souverain sacrificateur parfait. C'est un petit peu comme si un condamné à mort décidait de donner sa vie pour un autre condamné à mort. Ça ne fonctionne pas. On lui dirait, mais attends, toi, tu vas déjà perdre la vie à cause de ce que tu as fait. Comment est-ce que tu pourrais offrir ta vie pour quelqu'un d'autre ? Si Jésus avait été un pécheur, ça ne fonctionne pas. Il fallait que Jésus soit saint. Il fallait que l'adaptateur fonctionne. Il fallait qu'il soit parfait. Et l'autre chose qui distingue Jésus aussi d'un souverain sacrificateur humain, c'est qu'il est éternel. Hein. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus n'a pas besoin d'offrir des sacrifices encore et encore et encore, comme le souverain sacrificateur devait le faire. Non seulement il ne doit pas offrir le sacrifice pour lui-même parce qu'il est parfait, mais en plus il ne doit pas offrir des sacrifices tous les jours parce qu'il est mort une fois pour toutes, parce qu'il est éternel. Pas besoin de rajouter quelque chose à son sacrifice. Jésus est parfait. Il est ce souverain sacrificateur pleinement suffisant. Il est ce prêtre pleinement suffisant pour nous permettre d'accéder à Dieu. Prenons un peu de recul. Si on regarde les religions du monde, je zoome pas sur une religion en particulier, mais toutes les religions du monde, je pense qu'on pourrait résumer la démarche religieuse dans un seul concept. Ce que les gens font, c'est une tentative de rejoindre Dieu. Et alors ça peut prendre des formes diverses et variées, une tentative de s'élever d'une certaine façon vers Dieu, d'accéder à Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait c'est du vent, c'est impossible d'accéder à Dieu. Le christianisme est fondamentalement différent de toute autre religion. Pourquoi ? Parce que le sens est complètement différent. On n'essaie pas de s'élever vers Dieu, mais on réalise maintenant que c'est Dieu qui s'est abaissé vers nous. Jésus est venu dans notre misère. Hein. Il a traversé le ciel pour nous rejoindre. Notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur parfait, celui qui nous ouvre la voie vers Dieu, est venu vers nous. Il est venu au fond de notre misère pour nous ouvrir le chemin vers Dieu. Comme d'habitude, on est conscient que on ne lit jamais la Bible pour des raisons intellectuelles seulement. On la lit en vue d'une transformation concrète de nos vies. Et on va se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si Jésus est notre grand prêtre, comment ça doit être vécu dans nos vies de tous les jours ? Qu'est-ce que ça change à nos vies de tous les jours ? On a vu trois points, hein, parce qu'il est Dieu, parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est saint et éternel. On a vu ces trois points, hein, donc il avait un côté la divinité, de l'autre côté l'humanité, et puis en même temps il est fonctionnel et valide pour nous ouvrir le chemin vers Dieu. On va voir une application à la suite de chacun de ces trois points. Et en fait, les applications, elles se trouvent vraiment directement dans le texte. Donc on va pointer sur ça et voir comment on peut vivre ça d'une manière concrète. Premièrement, puisque Jésus est pleinement Dieu, nous devons rester attachés à lui. Ainsi, ouais, voilà, exactement, premier point. Merci Laure, tu suis bien, je vois que c'est super. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Jésus est Dieu, il est pleinement Dieu. Donc, restons attachés, persévérons avec lui. Persévérons, ça peut prendre des formes diverses. Dans certains cas, on pourrait dire que c'est persévérons dans l'épreuve, persévérons dans la persécution. Grâce à Dieu, on ne vit pas dans un pays où la persécution est bien grande. On peut vivre certaines formes de persécution, mais la persécution n'est pas si flagrante. Par contre, je crois qu'un des grands dangers pour nous aujourd'hui, c'est une forme de lassitude. on s'habitue à être chrétien, on se dit, bon, voilà, on est chrétien, on a peut-être certaines tâches qu'on fait parce qu'on est chrétien, peut-être qu'on passe du temps à lire la Bible, peut-être qu'on passe du temps à prier chaque jour, et c'est bien, faites-le, continuez de le faire si vous le faites, mais ce texte, ce passage nous montre qu'on doit changer fondamentalement. Au cœur de notre foi, il y a une relation vivante avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et puisque Jésus est Dieu, nous devons rester attachés à la foi. On doit continuer de vivre ça. On doit avoir cette flamme qui brûle en nous, ce désir profond de vivre cette relation avec Dieu. Donc, visuellement parlant, et c'est pour ça que je ne veux pas donner forcément une application concrète, une application précise de cela, mais de fait, on ne va pas forcément changer notre manière de vivre. Mais ça doit changer profondément nos motivations. Pourquoi je prends du temps pour lire la Bible? Pourquoi je prends du temps pour prier? Pourquoi je prends du temps pour aller voir un frère ou une sœur? Pourquoi je prends du temps pour m'occuper de mon prochain, mon voisin ou mon collègue ou les membres de ma famille? Pourquoi je viens à telle ou telle réunion, etc., etc., etc. Parce que je veux vivre cette relation. Je peux la vivre parce que Jésus est Dieu. Et il y a deux sens à cela. Hein. Premièrement, puisque Jésus est Dieu, il n'y a rien de supérieur dans notre vie. Il est tout pour nous. Les meilleures choses de la terre sont rien par rapport à ce que Jésus a à nous offrir. Et deuxième chose, c'est que puisque Jésus est Dieu, il a toute la puissance dans sa main pour nous garder attachés à lui. On peut être totalement confiant qu'il nous garde attachés à lui parce qu'il a les moyens de le faire puisqu'il est Dieu. J'aimerais venir à une petite illustration. Il y a un film qui m'a marqué, ça s'appelle « Effroyable jardin ». Est-ce que quelques-uns ont déjà vu ce film? Une, deux, trois personnes, ouais, voilà. « Effroyable jardin », c'est un film français. Si vous n'êtes pas français, vous n'avez sûrement pas vu ce film. C'est pas dramatique, je vous explique. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelques personnes ont commis un attentat contre l'armée allemande. Quelques Français, des résistants, ils ont commis un attentat contre l'armée allemande. Et du coup, l'armée allemande capture des personnes aléatoires dans le village où ça se passe et ils les mettent au fond d'un trou creusé dans la terre, un trou de peut-être 4 ou 5 mètres. Et l'essentiel de ce film, en fait, se passe au fond de ce trou. Il n'y a pas beaucoup de variété de décor, si vous le regardez, mais ce qui est saisissant, c'est que les gars, ils sont au fond de ce trou et c'est un trou qui est tout boueux. Au début, ils essayent de mettre en place des stratégies pour essayer de sortir de ce trou, mais ils se rendent compte assez rapidement que c'est impossible. Ils sont là, englués au fond de ce trou, et il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas sortir. À la fin du film, ces gars-là, ils sortent, finalement. Il y a un espèce de procès qui se passe, et puis voilà, quelqu'un se sacrifie pour eux. Ils sortent de ce trou, mais il faut que quelqu'un de l'extérieur, en l'occurrence un soldat de l'armée allemande, leur envoie une corde, je pense dans le film c'est une corde, pour qu'ils puissent sortir de ce trou. Depuis l'endroit où ils étaient, c'était impossible qu'ils sortent de ce trou. C'est un petit peu la même chose hein, ce qui se passe pour nous. Nous, on est dans notre nature humaine. On est au fond du trou. Impossible d'en sortir. Impossible de nous approcher de Dieu. Malgré toutes les meilleures intentions du monde, malgré toutes nos tentatives, nous restons pécheurs et Dieu reste saint. Impossible d'être nous-mêmes ces adaptateurs pour nous approcher de Dieu. On a besoin que Dieu lui-même intervienne pour nous, que Christ vienne dans notre trou. Et c'est ce qu'il a fait pour nous en sortir. C'est ce qu'il a fait. Et ça change fondamentalement notre relation avec lui. Restons attachés. Restons attachés à lui. Deuxième application. Par rapport au fait que Jésus est devenu pleinement homme, hein, de l'autre côté de l'adaptateur, il est devenu pleinement homme. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Application. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. En théologie, on appelle ça, cet enseignement-là, l'enseignement de l'assurance du salut. Qu'est-ce que c'est bienfaisant de réaliser qu'on peut être sûr de notre salut? Certain, il n'y a aucun doute que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous passerez l'éternité dans la présence de Dieu. Pourquoi il n'y a aucun doute? Parce qu'en fait, ça ne dépend pas du tout de nous. Ça dépend totalement de notre adaptateur. Et on a vu, notre adaptateur est valide. Et du coup, on peut s'assurer, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir la compassion. On est certain de cela. Il n'y a aucun doute à avoir. Si vous croyez en Jésus, vous n'avez aucun doute à avoir. Et c'est tellement bienfaisant de se rappeler de ça. Moi, ça m'a fait me souvenir, en préparant cette prédication, d'un jour où on était pour une semaine d'évangélisation dans le nord de la France, dans les universités, et on avait des sondages. On posait des questions aux gens pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient. Et une des questions, on demandait aux gens s'ils se sentaient appartenir à un certain groupe religieux. Et un peu plus tard dans le questionnaire, on demandait aux gens si aujourd'hui ils avaient le privilège de pouvoir poser une question directement à Dieu, qu'est-ce qu'ils lui demanderaient. Et il y avait une chose troublante. Parmi les gens qui se déclaraient comme d'arrière-plan musulmans, 100% des fois, la réponse à la deuxième question, enfin, je ne sais plus, la huitième question, je ne sais plus comment c'était, mais l'autre question, de savoir quelle question on posera à Dieu, 100% des gens répondaient, est-ce que je vais pouvoir entrer dans le paradis? Tous se posaient cette question. Nous, en tant que chrétiens, nous avons ce privilège. Et en fait, c'est pas une question pour les musulmans, c'est une question pour toutes les religions. Probablement que tout le monde se pose cette question. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons ce privilège de pouvoir vivre l'assurance du salut. Notre salut est certain, scellé une fois pour toutes, parce que l'adaptateur est valable, il fonctionne. On peut s'approcher avec assurance du trône de grâce. Certains voient ça comme de l'orgueil. Quand on dit ça, parfois, les gens disent « Mais attends, c'est hyper orgueilleux de voir les choses comme ça, d'être à ce point-là certain. » En fait, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est vraiment de l'humilité. On est totalement dépendant de Jésus-Christ, de notre souverain sacrificateur. Et puisque Jésus-Christ a tout fait, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a aucun orgueil là-dedans. Mais puisqu'il a tout fait, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Troisième application. On a vu, hein, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Tu peux mettre la dernière chose. C'est ce souverain sacrificateur parfait et éternel qu'il nous fallait. Ça nous montre une troisième application. Jésus est unique. Il est le seul grand prêtre. Il y a seulement lui qui pouvait nous permettre d'accéder à Dieu. Il y a seulement lui qui peut nous permettre d'accéder à Dieu. C'est lui le grand prêtre qu'il nous fallait. Jésus est unique. On vit dans une société pluraliste. On aime bien dire que toutes les religions se valent. On aime bien croire que tous les chemins mènent à Dieu. Hein. Et en fait, on est dans une société qui aime la spiritualité, mais qui déteste ce caractère unique de Jésus-Christ. Pourtant, on l'a vu, Jésus est le seul. Il est le seul parce qu'il est à la fois pleinement homme, pleinement Dieu, et pleinement capable de nous apporter le salut. Il est notre grand prêtre parfait. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on doit premièrement être clair avec les gens. Non, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Un seul chemin permet d'accéder à Dieu. Et c'est logique, c'est Jésus-Christ. Aucun autre ne permet d'accéder à Dieu. Franchement, si Dieu avait imaginé un autre chemin pour nous permettre de nous approcher de lui, il aurait probablement épargné son Fils et nous aurait montré cet autre chemin. Jésus-Christ est nécessairement unique, le seul chemin vers Dieu. Et l'autre chose, c'est qu'on doit arrêter de chercher d'autres prêtres, d'autres souverains sacrificateurs. On doit arrêter de chercher d'autres solutions. Je ne sais pas quel sauveur vous cherchez. Peut-être que vous cherchez votre sauveur en vous-même. Vous essayez de vous sortir de votre trou, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, par vous-même. Arrêtez. Il y a un seul sauveur, un seul qui est capable de nous amener à Dieu, Jésus-Christ. Peut-être que vous cherchez un sauveur dans des personnes autour de vous. On est dans une société qui recherche souvent des sauveurs parmi les politiciens. On a l'impression que un nouveau président de la République ou un nouveau conseiller fédéral va nous sortir de nos problèmes. Et puis on est déçu, ça ne fonctionne pas. Et du coup, les codes de popularité descendent. Et puis on élit une nouvelle personne en croyant que cette nouvelle personne va pouvoir nous aider à nous en sortir. Mais ça ne fonctionne pas. Et parfois, même dans notre monde chrétien, on a cette tendance-là. On cherche des personnes qui sont un petit peu des sauveurs, des personnes qui créent du changement, qui créent un déclic, qui créent de la nouveauté, qui va faire que les choses vont aller bien. On aime bien les stars, entre guillemets, dans le monde chrétien. Mais en fait, arrêtons de chercher. Arrêtons de chercher un autre prêtre. Il y a un seul prêtre. Et ça doit transformer radicalement notre manière de voir. On ne doit pas chercher d'autres prêtres. Notre grand prêtre est Jésus-Christ. L'Église catholique a gardé l'appellation de prêtre pour leurs responsables. À tort, à mon avis. Bon, il y a des raisons historiques à cela. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il n'y a plus d'intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Les pasteurs, les anciens n'ont rien à voir avec des prêtres. Ce sont simplement des personnes qui enseignent ou qui ont certains dons ou qui peuvent faire certaines choses. Mais Jésus-Christ est notre seul grand prêtre. Il est le seul chemin vers Dieu. Et d'une certaine façon, le Nouveau Testament le dit, nous sommes tous des prêtres. Si Jésus est le souverain sacrificateur en tant que chrétien, nous sommes tous des prêtres. Parce que nous avons personnellement accès à Dieu en tout temps. Ça, cette vérité-là, nous montre aussi qu'on doit rayonner. Si Jésus est le seul grand prêtre, s'il est le seul souverain sacrificateur, il est urgent de parler de lui autour de nous. Les gens de la ville de Genève, l'humanité entière, ne va pas pouvoir accéder à Dieu par un autre chemin. Il faut que nous, les chrétiens, nous ayons parler de Jésus. Il faut qu'on présente ce souverain sacrificateur à nos voisins, à nos collègues, aux gens qui sont autour de nous. C'est urgent. Parce qu'il est le seul grand prêtre. Il est le grand prêtre qu'il nous fallait. Parfaitement saint, éternel, parfaitement Dieu, parfaitement humble, parfaitement homme. Je m'arrête avec cette illustration de l'adaptateur, j'espère que vous en rappellerez. D'un côté, Jésus est parfaitement Dieu. Du coup, il est parfaitement adapté pour nous permettre de nous approcher de Dieu. De l'autre côté, Jésus est parfaitement homme. Et du coup, il peut compatir à notre faiblesse. Du coup, il peut nous sauver. Si Jésus avait été seulement Dieu, il n'aurait pas été adapté pour nous sauver. Et en même temps, Jésus est parfaitement saint. Et en plus de quoi, il est éternel. Et du coup, il est valable, capable de nous apporter le salut, de nous sauver. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es ce souverain sacrificateur parfait. On veut te remercier parce que tu as traversé le ciel pour t'approcher de nous, pour t'approcher de moi. On veut te remercier parce que tu as payé à notre place pour nos péchés, pour nous ouvrir le salut, pour nous ouvrir la voie vers Dieu. Seigneur, merci pour cela et aide-nous à nous attacher à toi, à nous attacher à la foi. Aide-nous à réaliser toujours à nouveau qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de grâce. Et aide-nous à nous souvenir à chaque instant que tu es le grand prêtre qu'il nous fallait, saint et éternel. Il n'y en a pas d'autre. Aide-nous à vivre en conséquence de cela, en rayonnant de toi autour de nous et en ne cherchant pas d'autres prêtres, d'autres souverains sacrificateurs. Seigneur, transforme-nous, transforme nos cœurs, transforme notre Église pour qu'on puisse vivre dans l'attente et au service de ce souverain sacrificateur parfait. Je te demande ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen.